Bonjour tout le monde, je suis votre hôte Eugénie Francaire, coach santé. Vous écoutez Ma santé pour la vie, c'est mon balado, ma façon de vous partager ce qui me tient à cœur, des informations et des inspirations pour vous aider à prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, je vous propose une discussion fascinante avec la naturopathe Véronique Bourbeau, une communicatrice vraiment passionnée et passionnante. Cet échange s'adresse à vous, mesdames en ménopause ou en préménopause. Mais messieurs, vous pouvez aussi partager cet épisode aux femmes autour de vous, à qui ça pourrait faire du bien, votre blonde, votre sœur, vos filles, vos amis, vos collègues. Véronique, aujourd'hui, va nous parler des solutions naturopathiques, herbes et suppléments pour nous aider à équilibrer nos hormones. Véronique nous explique que les plantes et suppléments peuvent être pris en complément ou en alternative aux hormones bioidentiques. Les hormones influencent bien des choses dans notre corps, dont notre système nerveux, notre santé artérielle, notre force musculaire, la solidité de nos os, notre capacité digestive et bien d'autres choses. Comme vous allez l'entendre, rendu à la ménopause, les femmes, bien, on n'a plus le choix de s'occuper de nous si on veut continuer à vivre une vie qui nous allume. Bien sûr, ça passe aussi par les habitudes de vie, le sommeil, l'exercice, le mouvement, la gestion du stress et tout le reste. Véronique nous parle d'un terme que j'adore, la ménomorphose. Je trouve que c'est tellement approprié. C'est ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous, les femmes. Véronique Bourbeau est naturopathe agréée, diplômée de l'Institut d'enseignement en sciences naturopathiques et herboriste clinicienne, diplômée de l'Académie de phytothérapie du Canada. Elle cumule plus de 25 ans d'études, d'enseignement et de services comme consultante en santé globale. Persuadée que le schéma thérapeutique le plus efficace réside dans une approche multidisciplinaire, elle fonde en 2018 la clinique intégrative du Haut-Richelieu, où elle regroupe diverses approches complémentaires de santé. Puisque la richesse émerge de l'union des forces, elle œuvre activement pour la mise en place d'une approche plus intégrative de la santé au Québec. Enseignante en endocrinologie, elle se passionne pour la santé hormonale. Elle est aussi cofondatrice avec la docteure Lynn Desautels du programme Ma santé, mes hormones. Véronique est également spécialisée dans l'accompagnement de personnes confrontées au cancer. Elle fonde Cancer 360, une ressource éducative en oncologie intégrative. Véronique est une vulgarisatrice, comme vous allez l'entendre. Elle a collaboré aussi à de multiples ouvrages écrits, des livres, journaux, magazines, et a participé à différentes émissions de télé, de radio et des capsules web. Estimée pour sa rigueur scientifique et son sens de l'humour, Véronique est une conférencière active et fort appréciée. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Bonne écoute! Bonjour Véronique, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Eugénie, ça fait plaisir.
Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous parce que moi je travaille beaucoup avec les femmes en ménopause, en préménopause, puis on pense souvent à hormones bioidentiques. Puis là, j'ai beau dire aux femmes, oui, mais il n'y a pas juste ça qui existe. Alors aujourd'hui, avec toi, j'aimerais ça explorer les autres choses qui existent. Du côté supplément, du côté habitude de vie pour prendre soin de soi à la ménopause.
Oui, ça va faire plaisir. En fait, c'est vrai que les hormones, ça représente une bonne solution, mais il faut voir dans quel contexte on met ces hormones-là aussi.
Oui, le contexte, puis il y a des femmes qui, pour un million de raisons qui leur sont propres, n'ont pas envie d'aller là, et il y en a d'autres aussi à qui ce n'est pas nécessairement la solution.
Exactement. Il existe multiples chemins et le choix appartient aux femmes.
Bon, à partir du moment, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on doit voir les suppléments comme un complément à l'hormonothérapie bioidentique ou comme une alternative?
Oui, bien en fait, on a cette conception-là qu'on devrait faire un ou l'autre, mais non, c'est pas le cas, en fait. Pour multiples raisons, il y a des femmes, comme tu le mentionnes, bon, il y en a qui vont avoir accès à l'hormonothérapie, mais qui n'atteignent pas leur cible pour multiples raisons. Fait qu'à ce moment-là, au lieu de toujours augmenter les dosages ou de modifier, bien à ce moment-là, on peut compléter avec une approche naturelle. Donc, Dans une optique de complémentarité, ça se fait bien. Dans une optique où la femme, pour des raisons peut-être de valeur, de choix de traitement ou de conditions de santé où le prescripteur ne veut pas lui donner accès à de l'hormonaux, ben à ce moment-là, il existe aussi tout un autre pan de possibilités avec les produits naturels. Donc, alternative et complément, ça peut faire les deux. Ouais.
Donc, on va rentrer là-dedans. Donc, les suppléments, vers quoi on peut aller. Mais avant ça, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à ce sujet-là?
En fait, c'est une bonne question. En fait, moi, ça fait 25 ans que je suis herboriste et naturopathe agréée. Puis, quand je suis rentrée dans mes premiers cours de biologie, physiologie, là, on recule dans les années 90, là. Bien, en fait, quand on a abordé le dossier du système endocrinien, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Ça m'a passionnée, en fait, de voir les interrelations entre les hormones, puis la communication entre le cerveau, puis le reste du corps. C'était pas écrit nécessairement sur mon chemin. J'avais pas un besoin personnel. J'avais pas un trouble, par exemple, avec mon cycle menstruel. J'avais pas d'enjeu de fertilité. Donc, je me suis pas intéressée à ça pour une raison personnelle, mais ça a été juste une passion. Le professeur était très bon aussi, faut le dire. Il pensait très bien sa matière. Fait que comme je me suis beaucoup plu dans ce cours-là, à chaque fois que j'avais un travail à pondre ou une maîtrise ou des choses comme ça, je le faisais toujours par rapport aux hormones. Fait que c'est ce qui fait que ça fait 25 ans que je m'intéresse au sujet, que je lis à peu près tout ce qui est publié et que j'écoute tous les podcasts. Donc, c'est ça. C'est venu. Puis évidemment, c'est sûr que j'aime la santé féminine, j'aime accompagner les femmes, mais je trouve que surtout en naturo, on a tellement beaucoup d'outils à offrir, et que ce soit avec ou sans hormones, le bioidentique, là. Donc je trouve que c'est un beau créneau pour accompagner les personnes.
Tu parles de ton intérêt pour la physiologie, c'est quoi les impacts physiologiques de l'arrivée de la ménopause, la préménopause, de la baisse de l'œstrogène et progestérone, entre autres?
En fait, on peut nommer presque n'importe quoi, Eugénie, parce que les hormones, quand on les étudie à l'extérieur de la sphère de la reproduction, bien, on constate que ces hormones-là ont un impact sur le système nerveux, sur la santé artérielle, sur la masse et la force musculaire, sur la solidité des os, sur la capacité de digestion, sur la gestion du cholestérol sanguin. Donc, les hormones, il faut les sortir de ce cadre-là. Et quand on arrive à la ménopause, bien, oui, bien sûr, les capacités de reproduction, bon, ça rentre en pré-retraite, là, de toute évidence, mais il y a encore une grande influence de ces hormones-là, et le déclin des hormones, ça peut se traduire par plein de signes et symptômes qui ne sont pas nécessairement d'une première évidence. Si on pose la question aux femmes, selon vous, quels sont les signes les plus apparents de l'entrée en périménopause ou ménopause? Bien, les femmes souvent vont dire « Ah, les bouffées de chaleur. Peut-être la prise de poids, oui, ça je remarque. Peut-être la sécheresse vaginale. » Ça reste assez caractéristique, mais il y a plein d'autres choses comme les palpitations cardiaques, les vertiges, le mal de tête, les douleurs articulaires au réveil, bon, l'absence de libido. Il y a plein d'autres paramètres comme ça qui sont aussi sous la gouverne d'une certaine stabilité hormonale. Donc, nos hormones sont des grands régulateurs de santé, mais multisystémiques, bien au-delà, disons, de la sphère de reproduction. Oui.
Reproduction, oui, ça ne s'arrête vraiment pas là. Je suis toujours surprise, moi, un peu dans ma pratique, quand les femmes, une grande majorité de femmes qui ne savent pas que la ménopause, les symptômes commencent 10 à 12 ans avant la ménopause, puis ne connaissent pas non plus ces symptômes-là dont tu viens de parler. Et que tout un volet d'éducation à faire.
Oui, bien, en fait, si on posait la question à une femme de 30 ans, pour toi, quelle sera ta ménopause? On dit, ben, je ne sais pas, pour moi, je suis éternelle, je n'ai pas besoin de penser à ça, c'est loin de moi. Et en fait, c'est que ça commence autour de 35 ans. Ce n'est pas aussi évident. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des femmes qui vont avoir une insuffisance ovarienne là, précoce. C'est des conditions particulières qui vont rentrer en ménopause à 40 ans, mais disons que ce n'est pas la majorité. Mais à partir de 35 ans, il y a déjà un remaniement hormonal qui s'enclenche, qui est pas évident. Hein? Les femmes vont dire, « Ah, oh, j'ai un plus fort SPM après mes enfants, hein, à 35, 36, 37. » Je commence à sentir que, « Oh, c'est mon SPM. » Mais en fait, en arrière du SPM, ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 35, la femme commence à avoir des cycles anovulatoires où il n'y a pas d'ovulation. Ça n'arrive pas tous les mois. Ça peut arriver deux fois, trois fois dans l'année. Puis, si je n'ovule pas, à ce moment-là, je ne peux pas fabriquer de progestérone. Mais je suis toujours en capacité de produire de l'estrogène. Fait qu'il commence à avoir un petit décalage si la progestérone commence à faire progressivement ses valises. Fait qu'à partir de 35, 37, 40, 45, et là, la valise commence à être de plus en plus officielle. C'est l'absence, en fait, ou l'absence, si je n'ovule pas ce cycle-là, ou les absences accumulées de participation de progestérone qui donnent les premiers signes de préménopause. Et donc, c'est pas quelque chose qui commence le dimanche soir quand j'ai 52 ans puis que ça fait 12 mois que je ne suis pas menstruée. C'est un terrain qui évolue progressivement, mais ça commence très tôt. Et c'est l'importance, en fait, d'impliquer ou d'éduquer, de faire une éducation à la santé pour les femmes dans la trentaine, de prendre soin, entre autres, de leur glande surrénale, qui est la bouée de sauvetage pour les femmes une fois qu'on passe vraiment le cap où là, les deux hormones déclinent de façon plus franche.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'importance de prendre soin de ces glandes surrénales, quel rôle elles vont jouer? Une fois qu'on commence à faire les valises?
Oui, en fait, les glandes surrénales, ce sont les glandes qui nous aident à nous adapter au changement et au stress. Donc, ce sont des glandes, hein, on ne se le cachera pas, qui sont sursollicitées pendant toutes nos années de vie en Amérique du Nord, en Occident. Hein. Donc, la glande surrénale a cette capacité-là de produire une hormone réservoir qu'on appelle le DHEA. Et le DHEA, dans le corps, on est capable de la transformer en testostérone et à partir de la testostérone, on la transforme en estrogène. Et donc, la glande surrénale, quand mes ovaires perdent de la vitesse de production de ces hormones-là, le petit relais passe au niveau des glandes surrénales pour dire, bon, ben si la surrénale est disponible, ce n'est pas deux petits pruneaux secs là, dans le milieu du dos, là, mais c'est encore fonctionnel, ben, à ce moment-là, le DHEA permet de tendre vers un équilibre. Ça ne me redonnera pas la capacité de reprendre un cycle menstruel, de reproduire l'espèce. Là, on n'est pas à des degrés comme ça, mais ça permet de tempérer l'entrée en périménopause. Ça ne me permet pas de faire de la progestérone pour autant, mais ça permet d'équilibrer une portion de mes hormones. Et le défi, c'est d'entrer dans cette vague-là de périménopause avec des surrénales encore disponibles. Mais quand on vit des vies de cortisol, des vies de stress, à ce moment-là, l'entrée en périménopause, elle ne se fait pas en douceur. On peut dire ça comme ça.
Ouais. Et j'y arrivais justement au fameux cortisol parce que je pense que, en fait, ce que je vois auprès de mes clientes, puis je suis certaine que tu as la même expérience aussi, c'est qu'on a l'impression que le cortisol est bien trop dans le tapis, là, tu sais, c'est trop élevé tout le temps. C'est pourquoi ça?
Bien, en fait, le cortisol, c'est ce qu'on appelle le stress comme tel. Hein. C'est le corps qui stresse face à un élément qu'on va dire potentiellement stressant. Okay? Donc, si je mène, ma trentaine, ma quarantaine, ma vingtaine, bien sûr, et même avant, là, si je mène de front une vie qui demande énormément d'énergie, qui demande énormément d'adaptation au changement, si je fais face à plusieurs facteurs stressants, ça peut être la famille, ça peut être des multiples grossesses, hein, un facteur de stress, c'est pas quelque chose qui automatiquement est négatif. Là, un mariage aussi, c'est stressant, tout ça, on ne parle pas toujours juste du deuil ou du divorce. Là.
Ou du déménagement.
Quand je suis exposée à beaucoup de sollicitations de changement, à ce moment-là, ma glande surrénale, elle doit contribuer en faisant du cortisol. Fait que c'est vrai qu'on sollicite énormément cette énergie-là vitale pendant toute notre vie. Et il y a par contre des conditions où c'est un terme qu'on utilise en médecine fonctionnelle ou en approche naturopathique qui n'est pas officielle au niveau de la médecine ici, le moderne, mais ce qu'on appelle une genre de fatigue surrénalienne. Et la fatigue surrénalienne, ce n'est pas une lésion. Ce n'est pas que mes surrénales ne sont plus aptes. C'est qu'elles commencent à ne... En fait, c'est que la capacité de produire, de donner le cortisol ne correspond plus au réel besoin. C'est comme s'il y a un essoufflement progressif. Fait qu'il y a deux conditions qui se traduisent par des signes et symptômes là, divers. C'est que si j'ai trop de cortisol, je vais venir impacter mon équilibre hormonal, mais si j'en ai pas suffisamment, je vais impacter aussi mon équilibre hormonal. Et il y a une phrase à se souvenir, en fait, Eugénie, pour toutes les hormones. Si j'en ai trop, ça mène à la maladie. Si j'en ai pas assez, ça mène à la maladie aussi. Okay. Donc, tout est vraiment une question d'équilibre ici.
Donc, c'est ça qui explique, vous parlez de femmes en ménopause, c'est là que je suis dans ma vie. Mm-hmm. Et plusieurs de mes clientes aussi, ma capacité à gérer le stress est moins grande qu'elle l'a déjà été à 35 ou 40 ans.
Exactement. En fait, c'est qu'il y a une bonne portion de ces glandes-là qui sert de tentative d'équilibre. Et donc, on est beaucoup plus sujette. En fait, une femme, en partant, gère moins bien le stress qu'un homme. Ça a été étudié au niveau des chocs post-traumatiques, par exemple, ou face à une situation de stress, la quantité de cortisol sécrétée par une femme peut être de 4 à 8 fois plus élevée que chez un homme. Mmh. Puis ça, c'est une blague, mais c'est vrai en même temps. Si tu es avec ton conjoint, tu fais face à une situation de stress, tu t'en vas marcher en forêt, tu fais face à une ours, c'est qui va crier? Le stress est évident chez la femme. Effectivement, en vieillissant, il y a la gestion de stress qui se fait moins bien. Il y a différentes raisons. Oui, il y a la surrénale qui est déjà sollicitée à faire ce travail-là d'équilibre. Mais en fait, c'est que mon estrogène et ma progestérone, ils sont intimement reliés à ma stabilité des neurotransmetteurs aussi, qui me permet de gérer mon anxiété, qui me permet d'atteindre une attitude qui est positive. Donc, mon remaniement hormonal a un gros impact sur ma santé mentale, sur ma capacité à faire face au stress avec ma noradrénaline, entre autres, et ma dopamine. Fait que c'est, oui, la surrénale, mais c'est aussi le système nerveux qui est impacté dans cette période-là.
Dans une de tes conférences que j'ai écoutées récemment, tu parles, j'ai beaucoup aimé le terme ménomorphose que tu as amené. Je trouvais qu'il était positif, en fait, parce qu'il y a souvent, il y a souvent des connotations négatives ou péjoratives, alors que ménomorphose, tiens, c'est une métamorphose.
C'est tellement vrai.
J'ai eu l'image du papillon, là, tu sais, c'est comme tu es en train de se métamorphoser.
Oui, bien, en fait, il y a beaucoup de place au côté positif de cette transformation-là qui est obligée, hein, c'est un passage obligé. Dans mes statistiques, 100% des femmes vont vivre une ménopause. Donc, c'est qu'effectivement, on met beaucoup le focus sur les aspects, disons, négatifs ou la perte de protection liée au déclin des hormones. Mais il y a aussi tout un pan d'expression personnelle de ses besoins. Il y a aussi un beau tremplin. Quand on arrive en pré-ménopause, on est au mi-temps de notre vie. On est à la moitié de notre vie. Donc, c'est un bon moment pour redéfinir qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, comment est-ce qu'on veut créer, comment on veut se manifester, quel projet nous tient à cœur. Et s'il y a quelque chose qui revient à cette période-là, c'est qu'on n'a plus le choix vraiment de s'occuper de nous. Hein. Si on a pu se négliger volontairement ou pas, là, bien sûr, là, pendant des années parce qu'on s'occupait des enfants, parce qu'on s'occupait de la carrière, on s'occupait de d'autres projets, quand on arrive en pré-ménopause, périménopause, les symptômes peuvent être tellement incommodants qu'on ne peut pas les mettre en dessous du tapis. Hein. Donc, il faut adresser. Et c'est quelque chose qui peut être très, c'est un terme en anglais, mais « empowering » pour les femmes.
Hein. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Quelque chose de
très positif là-dedans aussi.
J'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu nous expliques. Là, c'est le message aussi que je lance aux femmes. C'est le temps de se remettre au centre de sa vie, finalement.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que je vais citer, en fait, docteur Manon Charlebois, qui est une gynécologue acupunctrice, qui donnait une formation, qui venait de donner une conférence dans une des formations que j'anime avec Docteur des Hôtels. En fait, ce qu'elle expliquait en acupuncture, en médecine traditionnelle chinoise, puis j'aime vraiment ça, elle disait en fait que le côté féminin, le côté yin, le côté maternel qui prend soin d'eux, qui est toujours disponible, qui est une ressource, on dirait, illimitée, bien le côté yin diminue quand on rentre en périménopause. Et c'est relié avec la baisse de fonctionnalité, pas de fonctionnalité, mais la baisse de rendement ovarien et ça laisse plus de place au côté yang, le côté d'affirmation, le côté de prise de décision où il y a moins de négociation, où on prend action pour faire des transformations plus significatives, moins... c'est ça. Fait que ce que j'aime dans cette approche-là, c'est quand on est capable de s'arrêter puis d'observer que c'est vrai, il y a une période où on est tanné d'être sursollicité tout le temps, puis d'être disponible tout le temps pour tout le monde, puis on a envie de faire un retour vers soi. Et c'est quelque chose qui est bien identifié en médecine traditionnelle chinoise là, depuis très, très, très longtemps. Ça permet des fois d'atténuer hein, l'autoculpabilité, de dire « Ah, ben maman est impatiente » ou « Je suis irritable » ou de juste comprendre que non, maman est en train de se ménomorphoser. Puis elle expérimente une autre facette de sa personnalité.
J'aime ça, comment tu dis ça, il y a une blague, je pense que c'est sur Facebook que j'ai vu ça à un moment donné, qui dit « Don't mess around with a woman over 50 », tu sais, essaye pas d'argumenter avec une femme qui a 50 ans ou plus parce qu'elle est plus dans ses bottines.
Il y avait une autre blague que j'ai lue qui était « Pré-ménopausal lives matters ». Je trouvais ça bon, tu sais. Ou « Pré-ménopausal women's lives matters ». Puis oui, les femmes en pré-ménopause, c'est important.
Oui, non, en effet, c'est bien dit. OK. On arrive maintenant aux outils, ton coffre à outils. Donc, qu'est-ce que la naturopathie, l'herboristerie a à offrir aux femmes en périménopause, en ménopause?
Ben, en fait, beaucoup, beaucoup de choses.
mettons, un incontournable. On va y aller.
Parce que quand on rentre dans un magasin de produits naturels ou qu'on magasine sur Internet, je veux dire, on a accès à l'univers, là, donc il faut être capable de sélectionner quelque chose qui est peut-être le plus probant. Donc, si on y va avec un classique, bien, en fait, tout dépendamment des besoins. Hein? C'est sûr que de s'occuper de ses surrénales, pour moi, c'est un incontournable. Ça permet d'atténuer la quantité de signes et symptômes qui peuvent se manifester dans cette transition-là. Plus mes surrénales sont aptes à créer ce petit manque-là, ce petit bonus d'hormones-là pour combler le déficit ovarien, bien, meilleure va être ma transition. Je ne vous garantis pas que vous allez passer ça entre le mur et la peinture, mais ça peut être adouci.
OK, bon, on aime ça, adoucir. On aime ça.
Donc, on peut soutenir ces glandes surrénales pour y arriver. En fait, là, il y a multiples options. Il y a des plantes qu'on va nommer des plantes adaptogènes, donc ça aide le corps à s'adapter à des situations de changement, dont le changement hormonal, dont souvent la perturbation du sommeil, selon les capacités digestives qui vont changer. On a le foie qui tolère moins l'alcool, entre autres. On a des changements métaboliques. Donc, on peut prendre des plantes adaptogènes. Là-dedans, il y en existe plusieurs. Là, c'est du cas par cas, je vous dirais. Mais si je fais juste énumérer, là, globalement, on a le ginseng américain. On va avoir le Shisandra. On peut penser au ginseng sibérien, qui est l'éleutérocoque. Il existe le maca aussi, qui a un petit tropisme au niveau de l'humeur, plus un petit kick au niveau de la libido, si ça fait partie des besoins. Il existe, il y en a d'autres, bien sûr. Il y a du rhodiola, si c'est l'attitude positive qui est difficile à maintenir, si c'est un petit terrain d'anxiété qui prend le dessus, le rhodiola est une bonne option. Donc, il y en existe plusieurs.
Et l'ashwagandha là-dedans, moi, je suis une grande fan d'ashwagandha. Moi, je suis inconditionnelle d'ashwagandha.
Il y en a beaucoup. Oui, ben oui, l'ashwagandha, ce qui est très bien avec l'ashwagandha, c'est qu'elle fait la relation entre les glandes surrénales et la thyroïde. Ah. Et en changement hormonal, il y a dans la réalité de prendre du poids dans cette période-là, il y a une des raisons, il y en existe plusieurs, mais une des raisons, c'est que la thyroïde, elle ralentit aussi. Donc, l'ashwagandha, quand on est pris dans un duo de ralentissement ou de sursollicitation des glandes surrénales, mais que les glandes surrénales ont de la difficulté à remplir la tâche et que le métabolisme ralentit au niveau de la thyroïde, bien là, l'ashwagandha permet de soutenir les deux. C'est une bonne option, l'ashwagandha, oui.
Est-ce que toutes ces plantes-là, le ginseng, le shishandra, le rhodiola, est-ce qu'elles ont chacune des façons spécifiques de travailler ou est-ce qu'en gros, elles travaillent de la même façon?
Non, elles ont leur petite particularité. C'est sûr que parce qu'elles sont des plantes adaptogènes, une plante adaptogène, par définition, ne va pas fatiguer le corps, ne va pas sursolliciter un système plus qu'un autre. Donc, ça tend vraiment à juste optimiser le rendement. C'est pas, ça nous rend pas Wonder Woman non plus, là. Donc, ça permet juste d'optimiser les activités cellulaires, de répondre de façon adéquate aux facteurs de stress, sans manquer de munitions, mais sans non plus en surproduire. Fait que si on regarde, par exemple, l'Eleuthéro, moi, ce que j'aime bien dire par rapport au ginseng de Sibérie, l'Eleutherocoque, c'est une plante qui me permet de faire plus à partir de moins. Donc, si dans mon quotidien, j'ai plus de soucis de digestion, si mon sommeil est impacté, si j'ai une moins bonne gestion de ma glycémie, entre autres, si je vis beaucoup de stress, peu importe qui vient impacter ma capacité de rendement, bien, l'Eleuthéro, c'est pas bon. Ça ne me propulse pas, là, mais ça me permet vraiment de mieux m'adapter à ces situations-là et de moins sentir l'impact d'une moins bonne digestion, de moins bonne nuit de sommeil, entre autres, sur mon système nerveux. Ça, c'est l'Eleuthéro. Ensuite, si on travaille avec le Schisandra a un tropisme un peu plus au niveau de la qualité de la peau et au niveau du foie. Fait que là, ça va varier. Il y a des femmes qui vont avoir des soucis hépatiques. C'est le foie qui gère tout le remaniement de nos hormones, en fait, qui permet d'éliminer nos estrogènes qu'on fabrique, mais desquels on est exposé aussi dans l'environnement, les xénoestrogènes. Donc, quand c'est le foie qui surchauffe, un indice, c'est que je vais avoir des bouffées de chaleur à 3 heures du matin. Le cap à 3 heures du matin, c'est là où le foie reçoit le plus d'irrigation sanguine. Donc, quand le foie surchauffe, bien, ça peut irradier en chaleur et donner une chaleur dans la nuit. Donc, si c'est ce petit pôle-là, bien, le Schisandra est vraiment fantastique. Ça permet d'humidifier la peau aussi. Donc, si j'ai la peau sèche, si je vois des signes prématurés de vieillissement de la peau, hein, on prend tous des petits coups de vieux, hein, à 30, à 35, à 40, à 45. Il y a comme des bonus là, qui viennent aux 5 ans. Mais si on trouve que ça s'accélère drôlement, on peut prendre le Schisandra. Ensuite, le rhodiola.
Ta plante chouchou, je pense, hein?
Oui.
Pourquoi?
J'adore le rhodiola parce qu'elle marche super vite. Parce que normalement, une plante adaptogène va s'adapter aussi au corps, va moduler doucement. Fait que c'est pas, on ne sent pas les effets en 2-3 jours dans une semaine, mais le rhodiola est le plus rapide, disons, dans le groupe des adaptogènes. C'est pour adresser le surstress aigu ou chronique. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est ma béquille depuis longtemps. Le rhodiola vient travailler au niveau de la sérotonine, au niveau de la dopamine. Donc, l'attitude positive, antidépresseur, anxiolytique, capacité de garder aussi toutes nos capacités cognitives. Et on le sait, hein, dans la période de préménopause, périménopause, on peut sentir qu'on a du brouillard mental, que l'effort mental, on dit ça ne nous tente plus. Les trous de mémoire, les blancs, on cherche nos mots, on a moins de vocabulaire, on dirait qu'avant aussi, on s'exprime moins bien. Bien, en fait, le rhodiola travaille sur ce tropisme-là, donc je l'aime vraiment.
OK, tu es en train de me la vendre.
Oui, puis elle n'a pas d'effet secondaire, donc c'est extraordinaire. Là. Puis ensuite, on a parlé, bon, l'ashwagandha, ça je l'ai expliqué, hein, la relation entre la surrénale et la glande thyroïde. Donc, si je vis beaucoup, beaucoup de stress, c'est que ça impacte ma capacité de maintenir un métabolisme actif. Bien, à ce moment-là, je vais choisir l'ashwagandha. Puis après ça, bon, quand on le prend, à quel moment, dosage, tout ça, ça, il va falloir consulter pour voir qu'est-ce qui est plus pertinent dans votre cas. Mais il existe. Ça, c'est juste une affaire là, qu'on a parlé. On a juste parlé des
glandes. Oui. D'ailleurs, je voulais aussi faire la précision. Là. Notre discussion, c'est à titre informatif. Ce n'est pas une prescription pour personne.
Non, okay. Exact. Puis ensuite, si tu me permets, ben en fait, ça va dépendre. Là, la surrénale, c'est comme un peu la toile de fond, si tu veux, que toutes les femmes ont comme intérêt à considérer pour avoir une transition qui est adoucie. Mais ensuite, on va y aller selon les symptômes les plus incommodants. On peut y aller à la carte, en quelque sorte. Puis l'avantage des plantes ou des produits de santé naturelle, c'est que c'est rare que ça remplisse une seule fonction. Donc, en prenant une plante, ben, je peux travailler à la fois sur le sommeil, sur la santé mentale, sur l'élimination intestinale, sur le tropisme au niveau de la vésicule biliaire. Il y a différentes choses. Fait que si on y va avec le classique qui est bien incommodant, qui sont les bouffées de chaleur, c'est là, à ce moment-là, où on a multiples options. Et la question qui revient toujours dans le monde des produits naturels, c'est de dire, OK, c'est beau, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? J'aime bien l'idée d'une alternative ou d'un complément, mais je veux être sûre que ça fonctionne. Hein? Et puis là, dans toutes les possibilités, il y en a trois qui sont très, très bien étudiées. On a les isoflavones de soya, on a l'actée à grappe noire et on a la rhubarbe de Sibérie. Et absolument, dans une de ces trois-là, là, dans ce trio-là, il y a de quoi trouver satisfaction. Là.
On peut-tu les mélanger ou il faut vraiment y aller une à la fois?
Bon, ça pourrait se mélanger, Eugénie, mais je dirais que les isoflavones de soya et la rhubarbe de Sibérie, ça se ressemble beaucoup au niveau de l'effet. Fait que je vous dirais, essayez-en une. Puis, si ça ne fonctionne pas, parce que, par exemple, le soya, ça ne fait pas dans tous les tubes digestifs. Hein? Ce n'est pas tous les intestins qui ont une capacité à bien gérer.
Il y a une grande controverse au niveau du soya aussi. C'est bon, c'est pas bon, on en prend.
Ça fait 60 ans hein, que... on ne le sait plus. Mais en fait, ça fait depuis 2014 que l'aspect, en fait, sécuritaire ou efficace, qui est de protection aussi dans un terrain de prédisposition de cancer. Donc, ça fait 10 ans qu'on le sait que ça, c'est sécuritaire. Mais il y a une controverse. Hein? On disait aux femmes qui avaient un cancer sensible aux hormones de ne pas approcher le soya, même avec une perche de 10 pieds. On a dit ça pendant 60 ans. Mais ça fait 10 ans que là, l'eau a coulé sur les ponts, puis on a remis les pendules à l'heure et qu'on a suffisamment de data qui, au contraire, on est en train de changer carrément de direction. On sait que plus la femme est exposée à des phytoestrogènes, dont les isoflavones de soya, meilleur prognostic elle va avoir si elle a un diagnostic, puis moins de risque de récidive elle va avoir si elle a développé un cancer sensible aux hormones. Donc, on est vraiment en train de faire un 180 par rapport à ce qu'on disait il y a quelques années, là. Donc, les isoflavones de soya, ça reste très, très bien étudié. Dans les isoflavones, on a des molécules qui ont une structure qui s'apparente à nos propres estrogènes. Donc, ce n'est pas des vrais estrogènes. On ne peut pas dire que les plantes contiennent des estrogènes. Les estrogènes, ça se crée dans des ovules, puis les plantes ne se reproduisent pas par ovule, mais ont une capacité de fixation qui va un peu mimer l'effet de l'estrogène. Mais tout ça dans un cadre sécuritaire, c'est que la plante est une modulatrice. Donc, si j'ai beaucoup, beaucoup d'estrogènes qui se fixent sur les récepteurs, ça vient freiner. C'est ce qui fait que ça peut être positif dans un terrain plus propice au cancer, par exemple. Tandis que notre estrogène naturel a une capacité de prolifération soutenue. Donc, si je viens y couper un peu l'herbe sous le pied, je viens ralentir la multiplication des cellules. Mais si au contraire, périménopause, je n'ai pas d'estrogène pour vendre au coin de la rue, moi, là avec une limonade, là, j'en veux. À ce moment-là, quand je prends des phytoestrogènes, mais je suis capable de venir cibler mes petits récepteurs puis d'enclencher une certaine modulation qui peut atteindre jusqu'à 14 %, ce qui est quand même beaucoup. Et ça a été étudié, les isoflavones de soya versus, par exemple, l'estrogène transdermique ou l'estrogène qu'on prend PROS, qu'on avale. Et on a des études très comparatives, autant pour le soya que pour l'actée à grappe noire. Donc, au niveau de l'efficacité, oui. Après ça, il faut juste voir, est-ce qu'on le digère bien? Est-ce qu'on a, dans le cas du soya, est-ce que j'ai les bonnes bactéries intestinales qui me permettent d'extirper ces molécules-là qui viennent moduler mon profil hormonal? Et c'est là où des fois, on va dire, ah ben non, moi ça ne fonctionne pas, j'ai essayé, j'ai mangé des edamame, j'ai pris des capsules d'isoflavone de soya, je prends du tempeh, je m'expose. Puis, mon Dieu, j'ai des bouffées de chaleur, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est une réalité. On ne va pas s'entêter. Ça reste une légumineuse. Donc, ce n'est pas tous les tubes digestifs qui gèrent bien les légumineuses.
Et ce n'est pas tous les tubes digestifs qui sont en santé aussi. Le microbiote, c'est plus...
Toutes les différences. Oui, je suis à la recherche de tubes digestifs tout à fait optimaux depuis 25 ans. Mais bon, dans le sens où il y a aussi... comme le soya, on n'a pas une grande historique transgénérationnelle de consommation. Il y a aussi certaines capacités, disons, digestives reliées à notre expression génétique qui est moins favorisée ici comparativement en Asie. Donc, une femme asiatique va avoir beaucoup plus de facilité de moduler ses hormones avec du soya versus nous. Fait qu'il faut voir, il faut faire du cas par cas. Mais pour les femmes qui disent ah, le soya pour X raisons, je ne le digère pas ou non, ou moi je suis restée encore dans cette peur-là, dans cette crainte-là du soya, je ne me sens pas à l'aise, ben à ce moment-là, ce n'est pas la seule option. On peut y aller avec la rhubarbe de Sibérie qui remplit sommairement les mêmes fonctions. Cette capacité-là de se fixer sur les récepteurs, mais de moduler la réponse de prolifération à la baisse pour pas qu'il y ait multiplication de cellules, mais en même temps qu'il y ait une modulation du message estrogénique. Fait que la rhubarbe de Sibérie, il faut juste savoir où la trouver.
On la trouve où?
Elle est en vente. Ben, c'est ça, en fait, parce que quand j'en parle dans les conférences, je reçois toujours après ça une série de courriels qui me disent « Oui, mais je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé. » En fait, c'est qu'elle a un trademark, un nom de commerce. Et pour la trouver, le nom de commerce, c'est le ERR731.
ERR731, OK.
Et quand on va dans un magasin de produits naturels, à ce moment-là, vous devez cibler la naturopathe ou l'herboriste dans la place pour lui demander. Et en fait, je ne veux pas faire de placement de produits, bien sûr, là, mais vous le retrouvez dans, entre autres, le Estrovera de Metagenix. C'est de la rhubarbe de Sibérie. Fait que si vous rentrez dans... c'est pas la seule compagnie, mais si vous rentrez dans le magasin de produits naturels puis vous demandez de la rhubarbe de Sibérie, ça se peut que la personne, elle ne sache pas de quoi vous parliez ou elle va vous donner de la rhubarbe pour la constipation. C'est pas la même chose.
OK.
À ce moment-là, il faut dire, ah, c'est le ERR731. Et là, ça peut ne pas allumer de cloche ou de lumière chez cette personne-là. Donc, à ce moment-là, dire, OK, je veux l'Estrovera.
OK. OK.
Ces deux-là, en fait, Eugénie, là, je vais compléter, puis on passera à la prochaine question. Donc, ces deux, la rhubarbe de Sibérie, puis l'isoflavone de soya, leur action, pourquoi est-ce qu'elles sont similaires? C'est qu'elles vont cibler les récepteurs d'estrogène. Si, pour une raison X, Y, Z, je ne veux pas passer par là, OK? J'ai des craintes, je ne veux pas occuper mes récepteurs d'estrogène. À ce moment-là, il existe l'actéa grappe noire. L'actéa grappe noire a cette capacité-là de moduler la bouffée de chaleur en passant sur les récepteurs qu'on nomme de sérotonine. Sérotonine, c'est connu comme étant un neurotransmetteur de l'attitude positive, comme je nommais tantôt, donc un antidépresseur. Et quand je prends un antidépresseur, ça bloque la sortie, l'élimination de ce neurotransmetteur-là de mon corps. Donc, ça maintient son action active sur mes neurones. Mais ça ne fait pas juste ça, la sérotonine. La sérotonine, j'ai des récepteurs tout le long de mon tube digestif et c'est ce qui fait la motilité gastrique, c'est ce qui va permettre aussi l'élimination, le péristaltisme, la capacité de bien digérer. La sérotonine a son mot à dire. Mais j'ai des récepteurs de sérotonine aussi au niveau des vaisseaux sanguins. Et la sérotonine est impliquée dans ce qu'on appelle le vasodynamisme, la capacité de vasoconstricter et vasodilater. Et quand ma sérotonine est stable, à ce moment-là, je n'ai pas de frissons, je n'ai pas de bouffée de chaleur, je suis comme thermoneutre, on va dire.
J'aime ça, thermoneutre.
On aime ça être thermoneutre.
J'adore.
La ménomorphose en thermoneutralité, c'est le bonheur. Donc, en prenant l'actée à grappe noire, qui est une plante qui est étudiée depuis plus de 70 ans, là, que c'est même un médicament en Allemagne, là, c'est en vente libre ici, mais en fait, cible ces récepteurs-là de sérotonine. Et donc, à ce moment-là, me permet d'avoir une thermoneutralité tolérante avant d'avoir des signes de dissipation de chaleur là, que peuvent être la transpiration puis les bouffées vasomotrices. Et ça n'a rien à voir avec les hormones. Ça ne module pas du tout l'estrogène. Ça ne change pas la commande cérébrale qui est demandée à ce qui reste d'ovaire ou à mes surrénales. Ça passe vraiment par un autre terrain. Donc, c'est une autre option pour atténuer nos fameuses bouffées de chaleur. Mais bouffée de chaleur, il faut penser aussi, bien sûr, à la qualité de la nuit. Donc, ça fait beaucoup plus large que d'avoir une bonne journée.
Oui. J'y arrive, justement, la qualité de la nuit. Là, tu as parlé des plantes adaptogènes, tu as parlé d'actagrappe noire, d'isoflavone, de rhubarbe de Sibérie. Quand on dort mal, Personnellement, moi, je suis une grande fan du GABA, mais il existe plusieurs solutions pour nous aider à mieux dormir à cette étape-là de notre vie.
Oui, je pensais que tu étais pour dire que je suis une grande fan du sommeil. Je dis, moi aussi.
j'aimerais ça, j'y aspire.
C'est tellement important, en fait, parce qu'une mauvaise nuit de sommeil, ça déconstruit tout le reste. Mm-hmm. La gestion de poids, la rétention d'eau, l'appétit, le comportement alimentaire, la qualité métabolique, je veux dire, ça change tout. Donc, dormir, pour moi, c'est une priorité des priorités, même bien avant la fameuse, disons, bouffée de chaleur ou ce qui est incommodant, il faut se mettre dans un contexte où le sommeil va être assuré. Donc oui, le GABA, comme tu le mentionnes, c'est vrai que ça fonctionne super bien. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qu'on fabrique nous-mêmes, en fait, dans notre système nerveux, dans le tube digestif aussi. Les bactéries intestinales en fabriquent aussi. Et le GABA, c'est le plus grand inhibiteur nerveux. Quand on pense inhibition nerveuse, on peut avoir tendance à dire, oh mon Dieu, mais ça va m'assommer, mais c'est somnolent. Non, c'est pas ça que ça fait. C'est que dans le système nerveux, on a des neurotransmetteurs qui sont excitants et il y en a qui sont calmants. Et c'est l'équilibre des deux qui me permet d'être tout à fait fonctionnel. Et donc, le GABA permet d'augmenter aussi les ondes alpha au niveau du cerveau. Ce sont les ondes de méditation, de contemplation ou d'apprentissage facilité. Donc, ça nous permet d'être plus en contact avec ce qu'on vit et mieux intégrer les apprentissages. Fait que le GABA, lorsque il commence à faire noir, ben, le GABA va être justement un inhibiteur du système nerveux sympathique, dont l'activité est du cortisol que je sécrète tout le long de ma journée. Et donc, ça peut permettre de réduire le temps d'endormissement d'entre 5 et 8 minutes. Donc, pour les femmes, oui, bien, à ce moment-là, n'importe quelle minute compte.
Oui, non, tout à fait, je confirme.
si les femmes ont de la difficulté à entrer dans le sommeil, parce que il y a une des périodes, hein, moi, je l'ai vécu, ça, j'ai trouvé ça très, très intense. Hein. Quand tu es une bonne dormeuse, puis moi, j'ai toujours apprécié, c'est un de mes plus grands bonheurs, moi, dormir, et que quand ton cerveau ne sait plus par où passer pour mettre la switch à off, puis que le cerveau continue, puis que tu te réveilles aux 10 minutes, tu sais, aux demi-heures, aux heures, puis tu dis, mais voyons.
T'es comme en hyper-vigilance tout le temps, là, tu sais.
Exact. Puis tu commences à prendre un petit peu de GABA, puis tu sens le calme s'installer. C'est un anti-panique, là. C'est ça. On peut le donner aux personnes qui sont TDAH aussi, là, juste pour les ramener un petit peu plus calme. Fait que c'est quelque chose qu'on peut prendre le jour si on fait face à beaucoup de stress, beaucoup de facteurs stresseurs, mais le soir pour la qualité de l'endormissement. Et ça permet aussi de prolonger les phases du sommeil qu'on va aimer, les phases profondes puis les phases de rêve. Le GABA, on peut le prendre tout seul, mais on peut le combiner aussi avec la théanine. Ça fait une super bonne job ensemble.
La théanine, ben, le soir, les deux,
ah,
le
oui,
soir?
Oui. Oui, okay. Ah oui, le jour, le soir. Sur 24 heures, c'est bon. La théanine et le GABA font sensiblement le même travail, mais c'est comme si les mettre ensemble décuple. Il y a une synergie, en fait, qui fait que les deux fonctionnent mieux. Et la théanine, son avantage, c'est que si, malgré ça, je n'ai pas une nuit complète ou, bon, deux, trois pipis dans la nuit, une, deux, trois chaleurs ou le conjoint qui tourne ou qui ronfle ou peu importe, là, que je n'ai pas une nuit là où, au moment où je me suis endormie, j'ai plongé jusqu'au réveil le lendemain, bien, la théanine permet, en fait, au cerveau d'être plus fonctionnel le lendemain, même si je suis en carence de récupération de ma fatigue de la journée. De la veille. Okay. Fait que les deux se mixent très, 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 très bien. Puis ça fonctionne dans 20 minutes, donc c'est assez rapide aussi.
Assez rapide, OK. Donc ça, c'est pour favoriser l'endormissement, pour rester endormi maintenant. Qu'est-ce qu'on prend?
OK. Ça peut être un peu plus complexe, OK? Dans le sens où il va falloir regarder dans les habitudes de vie aussi. Parce que si j'ai des fluctuations de glycémie, c'est sûr que je vais avoir des réveils multiples. Si je consomme un verre de vin, parce que le verre de vin, ça devient souvent une habitude à partir de 40 ans pour décompresser, pour se récompenser de notre semaine de travail, pour rentrer en mode de sédation, de relaxation, mais c'est sûr que l'alcool provoque aussi une insomnie de rebond. Fait qu'il va falloir qu'on regarde beaucoup plus large que juste prendre un supplément.
Parce que le supplément puis l'hormone ne remplacent pas les habitudes de vie. C'est pas, on peut pas les interchanger, là.
Absolument pas, en fait. Absolument pas. C'est comme je disais au tout début, les hormones, je trouve ça fantastique, là. Moi, je suis pour le bien-être en vie, là. Fait que pour les hormones, oui. Pour les produits de santé naturelle, de toute évidence, oui. Mais dans quel contexte? Si j'ai un mode de vie qui est dévitalisant, si j'ai un mode de vie qui est déséquilibré, c'est pas le petit ajout du supplément ou c'est pas la petite prise d'hormones qui va changer la donne. Ça va être une lune de miel qui va être très écourtée. Donc, il faut toujours adresser le mode de vie. Fait que dans le sommeil, qui, bien que je m'endors, je ne peux pas le maintenir, disons, toute la nuit, mais là, il va falloir qu'on regarde plus large. Mais il faut savoir que c'est très commun. En fait, c'est très commun de ne pas dormir dans la préménopause. On parle jusqu'à 65 % des femmes. Mm-hmm. Parce que mes hormones, ma progestérone, mon estrogène sont impliquées dans l'architecture du sommeil. C'est pas coupé au couteau, là, ils peuvent se promener d'une phase à l'autre, mais dans la phase d'endormissement, là où le GABA fonctionne bien, où la théanine fonctionne bien, où la méditation, la cohérence cardiaque, la visualisation, peu importe, là où ça fonctionne bien, ben j'ai aussi ma progestérone. Ma progestérone, c'est elle qui permet l'endormissement. Et ensuite, j'entre progressivement dans le sommeil qui est lent. C'est un sommeil qui est de léger à très profond. Et ça aussi, c'est ma progestérone qui va, disons, favoriser ces différentes phases-là de sommeil profond. Et c'est pendant le sommeil profond que je récupère de ma fatigue de la journée. C'est là que je répare mon corps. Mes petites micro-déchirures musculaires, ma santé articulaire, c'est là que je me refais en neuf pendant cette période-là. Et la phase du sommeil, qui est le sommeil paradoxal, là où je rêve, c'est là où je nettoie mon cerveau. C'est là où je vais atténuer le stress oxydatif. C'est là que je vais permettre au cerveau d'intégrer tous les acquis de la journée, me souvenir de mes apprentissages. Et ça, c'est sous l'influence de l'estrogène. Fait que c'est pas rare qu'on va entendre chez les femmes, « Mon Dieu, mais depuis, je suis en périménopause ou ménopause, mais je suis plus capable de dormir ou je m'endors puis je me réveille à tout bout de champ. » Fait que oui, il y a des hormones là-dedans. C'est ça qui va fragiliser la femme plus qu'un homme, par exemple. Fait que pour le maintien, mis à part avoir des bonnes habitudes de vie, là, ça, bon, une bonne consultation avec une coach, avec une natto, c'est bon. En fait, vous avez bien sûr la classique, la mélatonine. La mélatonine, maintenant, sur le marché, on en a dans deux catégories. On peut avoir une mélatonine qui est pour une induction du sommeil, donc pour l'endormissement à action rapide, mais il y en a une aussi qui est à libération lente, donc pour le maintien du sommeil. Puis dans la mélatonine, il faut réfléchir un peu à l'envers. On a cette conception-là occidentale que quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas assez. Hein? Fait qu'il faut que tu t'en prennes plus, puis prends-en plus, puis double tes affaires, puis ça ne fonctionne pas, c'est bon, il t'en manque. Mais dans le cas de la mélatonine, les études montrent que moins, c'est mieux.
Oh, donc, c'est intéressant, ça.
Oui. Bien, en fait, la mélatonine est super intéressante pour moduler tout le métabolisme. C'est une grande gardienne de santé métabolique et hormonale. C'est un antioxydant dans sa nature, c'est l'hormone de sommeil qu'on va appeler, mais son premier travail, c'est pas tant de nous endormir, c'est de venir réparer toutes les lésions à l'ADN. C'est une anti-cancer du sein, entre autres, hormonodépendant. C'est exceptionnel ce que ça fait. Là, il faut des bons dosages. Mais quand on parle juste de belles qualités de sommeil, d'induction de sommeil, on parle de 1,5 mg jusqu'à 3 mg. Même si on peut acheter du 10 mg maintenant en vente libre, souvent, les gens vont dire, ben moins j'en prends, mieux ça fonctionne. Et il faut savoir que si j'ai beau en prendre, je ne sais pas moi, 20 mg, 30 mg, ça vient juste combler le manque physiologique. Donc, je ne m'assomme pas nécessairement avec. Donc, pour certaines personnes qui en sécrètent suffisamment, que ce n'est pas la mélatonine l'enjeu, ça peut être le stress, le cortisol empêche la mélatonine de se fixer sur les récepteurs, mais ça peut être que j'en fais assez de mélatonine. Fait que quand j'en prends, ça ne marche pas. Ça se peut, ça ne fait pas à tout le monde. Donc là, il faut voir. Mais se souvenir, en fait, que si on a de la difficulté à bien dormir et qu'on a essayé, parce que c'est souvent ça qu'on va recommander en première intention, à essayer de la mélatonine. Et si vous dites, bien, moi, ça ne marche pas du tout, la première affaire à réfléchir, c'est l'exposition au stress. C'est l'antagoniste le plus direct à l'action de la mélatonine. Fait que j'en prenne 1,5 mg ou 30 mg, si ça ne fonctionne jamais, puis c'est pas parce que ça me donne, par exemple, une migraine ou que, bon, ça induit des effets secondaires, mais ça ne marche pas du tout. Je ne sais pas comment m'endormir, je ne suis pas capable de maintenir mon sommeil. Là, à ce moment-là, il faut parler surrénal. Ça va être la base.
OK, OK. J'aimerais ça que tu nous parles aussi, valériane, passiflore. On pense souvent à ces deux plantes-là pour le sommeil. Qu'est-ce que tu as à en dire?
Oui, bien, en fait, valériane, c'est que c'est la plante médicinale par rapport au sommeil la plus étudiée. Ça fait au-dessus de 50 ans qu'on l'étudie, donc on la connaît bien. Et ça, c'est du transgénérationnel. Hein. Moi, ma grand-mère apprenait sa petite valériane. Là. Je veux dire, c'est pas né d'hier. Là. Ça fait longtemps partie, ça fait partie du folklore depuis fort longtemps. La valériane, c'est une plante qui vient, en fait, cibler les récepteurs GABA dans le cerveau. Tout comme fait la progestérone. Les femmes qui prennent le prométhium vont dire, oh mon Dieu, mais je dors depuis que je prends ça. Ben, oui, ça vient cibler nos fameux récepteurs de GABA. La valériane contient aussi du GABA. Donc, elle va se fixer sur les récepteurs puis va induire une grande détente nerveuse. L'avantage aussi de la valériane, c'est qu'elle permet de calmer le corps physique. Donc, si, par exemple, j'ai de la difficulté à m'endormir parce que j'ai de l'eczéma qui me démange, puis ça démange tout le temps le soir quand tu vas te coucher.
Oui.
Ouais, c'est mal fait, là. Ou que j'ai de l'arthrose au niveau du cou, par exemple. Ou que j'ai de la difficulté parce que j'ai une douleur physique qui me garde toujours en vigilance nerveuse. La valériane fait un très bon travail là-dessus. Fait qu'elle va calmer le corps physique et elle va passer par les récepteurs GABA. Donc, va aider le corps et le système nerveux à se détendre. La passiflore, c'est une plante qu'on peut utiliser toute la journée. Comme le GABA, comme la théanine, en fait, c'est une plante qui calme l'hyperactivité nerveuse. Que ce soit chez les gens qui ont un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, la passiflore permet en fait de mieux canaliser l'énergie. Fait que c'est quelque chose qu'on peut prendre toute la journée, mais c'est quelque chose qui, le soir, permet là aussi d'accompagner. Toute seule, ce n'est pas la plante qui va endormir la plus grande majorité des gens. Mais dans une synergie, entre autres avec la valériane, avec la camomille, avec la mélisse, là, on se retrouve dans un contexte où le système nerveux n'a pas le choix de basculer en parasympathique, donc en détente, versus le sympathique qui est l'action ou le stress.
Hey, c'est vraiment intéressant, Véronique. Hey, merci de toutes ces informations-là. Avant de te laisser partir, dans la conférence que j'ai écoutée de toi récemment, tu parlais de standardisation des suppléments. Oui. Et oui. En fait, je pense que ce n'est pas compris. C'est un concept qu'on ne connaît pas. Fait que j'aimerais ça que tu nous en parles brièvement.
Oui, bien, en fait, la standardisation, c'est une façon de s'assurer que d'un lot à un autre, là, on parle de plantes médicinales pour la standardisation. Okay? Okay. On ne parle pas de magnésium ou de calcium. Là, okay? On parle de la manipulation des plantes. Les plantes médicinales ont des principes actifs. Mais une plante, c'est un organisme vivant. Hein? Ce n'est pas quelque chose de synthétique qu'on reproduit en laboratoire. Donc, la plante, selon son environnement, selon la qualité de son sol, selon l'humidité dans son environnement, selon les pluies, selon son exposition au soleil, elle ne va pas développer la même puissance, disons, thérapeutique d'un lot à un autre ou d'une culture à un autre ou d'un pays à un autre. Donc, c'est une façon un peu pharmaceutique, là, pour être honnête, là, de prendre les plantes puis de s'assurer que ce qui nous intéresse dedans, qu'ils ont le principe actif qu'on a identifié, soit identique d'une capsule à une autre ou d'une batch, d'un lot à un autre. Donc, pour y arriver, il y a différentes méthodes. Il y en a des plus propres que d'autres, là. Okay. C'est qu'on va manipuler la plante, on va y enlever souvent les éléments de structure, donc les fibres, évidemment on va la déshydrater, puis on va enlever souvent le sucre, l'amidon, qui n'a pas de réelle fonction spécifique à la plante, mais qui sert juste à la plante dans sa croissance, par exemple, dans sa capacité de se tenir droit, par exemple. Fait qu'on va enlever une certaine structure de la plante pour être capable de potentialiser et de multiplier la force des principes actifs. Et ça, moi, de mon côté, quand je travaille et que j'ai vraiment un objectif thérapeutique, j'adore la standardisation parce que j'aime m'assurer que, par exemple, l'actagraphe noire, l'efficacité a été étudiée à partir de 2,5 % de terpènes. Et donc, j'aimerais ça, moi, quand je travaille, m'assurer que ce que je recommande à cette femme-là apporte la même capacité de modulation du corps d'une bouteille à une autre. Donc, moi, j'aime bien travailler avec la standardisation. C'est sûr que comme étant d'abord herboriste, jadis, quand j'étais à l'école, on voyait ça un peu comme une perturbation du milieu vivant. Si on est herboriste classique, on va se dire « Ah, mais non! » Puis, c'est bien correct aussi, là, c'est vrai que la nature fait bien les choses et puis que ce qu'on étudie comme étant un principe actif connu aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on va découvrir que la portion qu'on enlève en standardisation, elle a aussi son mot à dire dans l'équilibre de la plante.
Okay.
Donc, on trouve les deux sur le marché. Les produits d'herboristerie traditionnels ne sont pas standardisés. Par exemple, si j'achète du chardon-marie, ben c'est du chardon-marie. Puis ça va me dire la quantité qu'il y a de chardon-marie dans ma capsule, par exemple. Mais je peux aussi trouver dans le monde des produits naturels du chardon-marie qui est standardisé en silymarine pour m'assurer que d'un lot à l'autre, j'ai la même chose.
Ah, okay.
Les deux approches sont intéressantes. Mais quand on travaille, disons, avec des recherches cliniques, on a toujours besoin de mettre ça très mathématique. Et donc, comme je disais, par rapport à lactée, moi, je vous dirais que on a fait vraiment le tour du sujet de lactée. Ça fait 70 ans qu'on l'étudie. Et en Allemagne, c'est étudié comme un médicament, là. Donc, ça passe à travers là, les mêmes étapes là, de sécurité d'usage, de manipulation, de métabolisme, des essais cliniques là, à double aveugle et tout ça. Donc, on le sait que, par exemple, par rapport à lactée, prendre juste de lactée peut ne pas avoir autant d'impact que prendre lactée qui est standardisée en terpènes. Fait que selon les plantes, moi, des fois, je vais vraiment favoriser la standardisation, puis dans d'autres cas, ah, ben, je vais favoriser quelque chose qui est un petit peu plus, disons, holistique ou complet là, dans la nature.
Hey, c'est super éclairant. On arrive au bout de notre heure. Les femmes qui nous écoutent, on commence par où? Mettons qu'on veut faire un premier pas dans cette direction-là. C'est quoi la première, ton premier conseil?
Bien, en fait, moi, je dirais, vous vous occupez de vous. Vous n'avez pas le choix. Okay? Parce qu'en fait, on se retrouve dans un carrefour où les femmes vont dire, OK, est-ce que j'endure? Est-ce que je patiente? Ou est-ce que j'agis? Ou est-ce que c'est-tu vraiment incommodant? Ou ça va finir par passer? Hein? Bien, en fait, il y a de plus en plus d'études qui prouvent aussi les relations de l'importance, en fait, de maintenir une qualité de vie, peu importe notre âge. Et oui, c'est vrai, même s'il y a un côté hyper positif qu'il faut développer par rapport à cette vision-là de la ménopause, c'est vrai que nos hormones sont aussi impliquées dans plein de systèmes, dans des voies enzymatiques qui optimisent la santé. Donc, il ne faut pas non plus banaliser. La différence aujourd'hui, c'est que quand on arrive en ménopause, il nous reste devant nous 40, 50 ans de vie sans soutien hormonal. Et il existe d'autres choses, c'est pas que les hormones, mais de penser à atténuer ce déclin-là avec ou sans hormones, avec des produits de santé ou des saines habitudes de vie, pour moi, ça, c'est un incontournable. L'outil, ça appartient aux femmes, de dire, ben moi, je vais aller en hormonaux, moi, je vais prendre des produits de santé, c'est comme vous voulez. Ce qui est important, c'est de ne pas endurer des symptômes trop longtemps. Des bouffées de chaleur, c'est impliqué dans la maladie cardiovasculaire quand on s'en occupe pas. C'est impliqué aussi dans l'athérosclérose au niveau des artères carotidiennes qui irriguent le cerveau. Si j'ai beaucoup de bouffées de chaleur, j'ai plus de risques d'athérosclérose, de maladie cardiovasculaire sur le moyen long terme. Donc, c'est pas à négliger. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est prenez action. La façon de le faire vous appartient. Si vous voulez prendre hormones ou produits de santé naturelle, c'est merveilleux. Gardez toujours en tête que le contexte dans lequel on va mettre ces hormones-là, dans lequel on va prendre ces suppléments, c'est ce qui va être le plus déterminant. Et dans les signes et symptômes qui sont, disons, courants, là, sur lesquels on peut se plaindre là, comme femme là, rendue dans cette période-là, là. Par exemple, la fatigue, les bouffées de chaleur, la transpiration nocturne, perturbation du sommeil, la prise de poids abdominale, l'absence de libido, changement d'humeur, difficulté de concentration, tolérance réduite à la douleur. On peut penser que c'est « Ah, ça, c'est parce que je t'en prie ménopause, c'est à cause de mon estrogène. » Eh bien, sachez, en fait, qu'un débalancement de la glycémie amène exactement les mêmes symptômes.
Mm-hmm.
Que d'être exposé chroniquement du cortisol amène les mêmes symptômes. Qu'avoir une nuit de sommeil perturbée pour X raisons, ça amène exactement les mêmes symptômes. Donc, puis le ralentissement de la thyroïde aussi, tu sais. Fait que les hormones sont une communauté tissée serrée. Fait que, tu sais, sans répondre spécifiquement, disons, à ta question, Eugénie, moi, je veux remettre la balle dans le camp de chacune des femmes, de dire, bien, il faut faire une introspection globale. Il ne suffit pas de prendre de l'isoflavone de soya, puis de maintenir le même déséquilibre de vie, puis se plaindre que ça ne fonctionne pas. Il faut regarder de façon plus large. Et même chose pour les hormones. Ce n'est pas parce que je mets des hormones dans un contexte où ma glycémie, elle est instable, que mes hormones vont remplir leur tâche. Non, elles vont être perturbées là aussi. Donc, habitude de vie, le sommeil, pour moi, c'est une des priorités. Ce n'est pas parce que je tripe sur le sommeil, mais entre autres, mais c'est
le même
priorité.
Message que j'ai, c'est la base de tout.
Tellement la base, là. C'est sûr, le cycle circadien, c'est ce cycle-là où on doit être harmonisé avec la lumière. Hein? Donc, le jour, je suis en éveil, le soir, je dois dormir, et c'est ce qu'on appelle le cycle circadien. Mais dans le cycle circadien, mes organes ont leur propre rythme biologique, mes hormones aussi. Donc, si je vis de nuit, et puis là, c'est sûr qu'il y a des femmes qui font des quarts de travail de nuit, tout ça, là, on a de la complexité là-dedans au niveau de la sphère du travail, mais de prioriser que le jour, je suis active et la nuit, non, je ne m'expose pas à de la lumière, je respecte la noirceur, ça, c'est la base. Parce que c'est à partir de là que je suis capable de moduler ma gestion de stress, que je suis capable de réguler ma glycémie, que je suis capable d'activer mon métabolisme, c'est pendant la nuit, et que je suis capable d'harmoniser mes surrénales pour qu'elles me donnent un petit potentiel d'hormones. Dormir et ne pas endurer des symptômes. Il n'y a pas de diplôme là, que tu aies enduré ça 20 ans ou 30 ans. Il risque d'avoir surtout des effets nocifs sur la qualité de vie. Fait que peu importe après ça de voir comment est-ce que vous voulez y aller.
Super, c'est vraiment intéressant. Les femmes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ton travail, où est-ce qu'on peut te trouver?
Oui, bien, en fait, j'ai fondé en 2018 la Clinique intégrative du Haut-Richelieu. Donc, c'est www.cliniqueintégrative.com.
Je vais mettre les liens sur les notes, oui.
Donc, moi, je ne prends plus de nouveaux clients, nouvelles clientes, mais j'ai une équipe avec moi qui est tout à fait formée avec une spécialité en santé féminine, en bien-être hormonal. Donc, je pourrais, quand vous m'écrivez, je pourrais vous mettre en lien avec des collègues. Et j'en profite aussi rapidement pour mentionner le travail que je fais conjointement avec Dr. Lynn Deshôtel qui s'appelle la plateforme « Ma santé ». meshormones.com, qui est une plateforme éducative où on fait vraiment de l'éducation à la santé hormonale. Et ça s'adresse autant au grand public qu'aux professionnels de la santé, donc aux femmes qui veulent se sentir informées, être capables de développer une certaine autonomie aussi dans la gestion de son style de vie, mais aussi des suppléments ou des hormones, d'être capables de s'auto-gérer, et aussi pour les professionnels de la santé, parce que malgré que ça a été extraordinaire l'automéno, ça n'a pas formé plus de médecins à être à l'aise avec la manipulation des hormones. Et donc, ça fait partie de notre mandat de former les professionnels de la santé et aussi pour inciter à ce que les usagères et les professionnels puissent dialoguer ensemble avec un bagage commun. Donc, masantemeshormones.com.
Je vais mettre le lien là aussi. Ben, un grand merci, Véronique, d'avoir pris le temps. C'est vraiment super apprécié.
Merci.
Rebonjour. J'espère que cette conversation vous a plu. Je vous rappelle que cette discussion est à titre informatif seulement. Je vous pose la question, après avoir entendu tout ça, quelle est la chose que vous retenez de cet échange? J'ai aussi un petit service à vous demander. Si cet épisode vous a fait du bien, s'il vous plaît, partagez-le avec une femme autour de vous qui pourrait en avoir besoin. Je vous dis merci à l'avance. Et avant de vous laisser partir, une réflexion que j'ai réentendue récemment. Ça dit à peu près ceci. Quand on parle de santé, ce n'est pas ce que l'on sait qui compte vraiment, c'est la façon dont on se comporte. Ce sont les choix qu'on fait jour après jour.
Tout le monde aimerait avoir des raccourcis, une formule magique, mais la santé, c'est à long terme que ça se passe. Voilà pour la citation. Et c'est aussi souvent plus facile lorsqu'on est accompagné. Alors, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce avec votre santé, faites-moi signe à eugénie.franqueur@gmail.com. Donc, eugénie.franqueur@gmail.com. Vous trouverez mes coordonnées dans les notes de cet épisode. Sur ce, où que vous soyez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt!